connaître les mystères de ta parole. Et pourtant, tu nous les donnes, et pourtant, tu nous appelles à nous y plonger, Seigneur. Nous croyons que ta parole est inspirée, nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons qu'elle est la nourriture dont nos âmes ont besoin. Nous croyons que toi, le Dieu de l'univers, tu veux nous instruire. Puisses-tu justement, Seigneur, nous instruire dans ces instants. Ouvre nos cœurs afin que nous comprenions ta parole. Ouvre nos cœurs afin qu'elle puisse faire chemin en nous. Et que cette instruction, Seigneur, ne soit pas de la simple connaissance pour réjouir l'intelligence, mais que, Seigneur, réellement, cet enseignement porte un fruit dans chacune de nos vies, dans cette Église et pour notre témoignage envers le monde. Amen. Voilà. Encore une fois, bonjour à tous. Alors, nous allons continuer l'enseignement qui porte sur le monde spirituel, que nous avons commencé maintenant il y a quelques mois. Et donc, l'idée, c'est que nous puissions progresser tout simplement dans cet enseignement, c'est que nous puissions voir les choses les unes après les autres. Alors nous avons commencé à expliquer qu'il existe un monde spirituel, que la Bible nous enseigne qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a bien une réalité spirituelle. Nous avons parlé du monde spirituel bon et nous avons parlé du monde spirituel mauvais. Et dans le monde spirituel mauvais, nous avons déjà parlé des démons. Et en fait, nous avons été un peu à l'inverse, parce que finalement, on a d'abord parlé des démons avant de parler de leur chef, mais aujourd'hui, on va parler de leur chef, on va parler donc de Satan. Alors, comme je l'ai dit les autres fois, je suis bien conscient que certains peuvent sortir d'ici en se disant « mais ce sont des fous, ils parlent de Satan, ils parlent du diable, c'est des malades ». Et donc, s'il y a des gens qui nous visitent aujourd'hui, les rassurer, nous ne sommes pas fous, hein, nous ne sommes pas écervelés. Simplement, comme nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous étudions tous les thèmes de la Bible, même ceux qui semblent les plus fous pour le monde d'aujourd'hui, et nous voulons que ces thèmes soient des thèmes finalement courants, que tous les croyants soient initiés à la connaissance de ces choses-là. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Satan, ce que la Bible dit au sujet de Satan. Alors, dans un sens, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais ça peut paraître fou de parler de ça. En même temps, les films que l'on voit sont remplis de cette idée des démons, de Satan, du monde mauvais, ce genre de choses. Et donc, ça ne nous est pas complètement étranger, finalement.
Voilà, je vais essayer de me débrouiller avec celui-ci. C'est pas aussi confortable, mais voilà. Alors, je vais parler de Satan maintenant, et vous verrez, je voudrais déjà insister sur le fait que nous parlons de Satan dans un contexte où nous avons proclamé la victoire de Jésus. Nous avons proclamé la victoire de Jésus, nous avons proclamé la victoire de Jésus sur le monde, sur le péché et aussi sur le diable. Et donc, ce sujet ne doit pas nous faire peur puisque nous combattons dans la victoire que Jésus nous a donnée, mais il est quand même important que nous connaissions ce que la Bible nous dit au sujet de Satan et de comment l'ennemi est présenté dans la Bible. Alors, je n'ai pas mon pointeur, donc mon très cher Valentin va m'aider à passer les dias. Alors, premièrement, nous parler de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Satan est une personne. Nous avons tout un ensemble de choses dans la Bible qui nous montrent.
Alors, la Bible nous dit que Satan est une personne. Nous avons tout un ensemble d'éléments qui nous attestent que ce n'est pas une. Satan n'est pas une idée, c'est pas une allégorie. On pourrait penser, certaines personnes pensent parfois que quand on parle de Satan, on parle en fait d'une personnification du mal. C'est-à-dire que plutôt que parler du mal, on utilise une personne et on dit oui, Satan. En fait, la Bible nous en parle réellement comme une personne existante. Ce n'est pas une abstraction, c'est pas une chose, c'est une personne, et nous avons vu que c'est un ange déchu, mais donc c'est réellement quelqu'un qui a une personnalité et quelqu'un qui est qui est individualisable dans son action, dans son œuvre et dans sa personne. Par exemple, dans Job 1, verset 8, il est dit, c'est Dieu qui dit à Satan, « As-tu regardé mon serviteur Job ?» Donc on voit que Dieu s'adresse à Satan comme à une personne, il ne lui parle pas comme à une idée, comme à une abstraction, comme une allégorie, mais il lui parle à lui et il lui parle à une personne As-tu regardé mon serviteur Job ? Dans Matthieu 4, verset 10, le texte nous dit que Jésus a dit « Va-t'en, Satan ». Donc il lui parle comme à une personne et il s'adresse à lui comme une personne. Nous avons aussi comme information dans la Bible que Satan a une volonté, il a une connaissance, il veut quelque chose, il sait des choses, il a des intentions, on va en parler tout à l'heure, et donc il a toutes les caractéristiques d'une personne, mais aussi la Bible nous montre que Satan pose des actes personnels, comme une personne pose des actes, lui aussi il pose des actes, et par exemple dans Matthieu 4 verset 3, c'est toujours dans le même texte, ce fameux texte de la tentation de Jésus, il nous est dit « Le tentateur s'approcha de lui. » Donc le tentateur s'approcha de lui. Satan est venu avec une intention. Il a posé un acte vis-à-vis de Jésus. Il s'est approché de lui. Ok ? Alors, les noms et les qualificatifs de Satan. Premièrement, le mot que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est Satan. C'est un terme qui signifie « adversaire ». Alors, dans quel sens faut-il comprendre « adversaire » ? Il faut comprendre que Satan est un adversaire des hommes, et qu'il est un adversaire des plans de Dieu. Alors, on a un texte de 1 Pierre 5,8 qui dit « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. » Votre adversaire, le diable. Donc la Bible le présente, et c'est le sens du mot Satan, comme l'adversaire, celui qui veut s'opposer aux enfants de Dieu, celui qui veut s'opposer à la marche des enfants de Dieu, mais pas seulement, il est aussi celui qui est l'adversaire des plans de Dieu. En d'autres termes, Satan se donne comme but d'empêcher les humains de vivre le plan de Dieu, d'empêcher les humains d'entrer dans la volonté de Dieu et de vivre tel que Dieu le veut. Alors en fait, c'est un sujet qui donne parfois lieu à certains débats, parce que certains, quand ils parlent du fait que Satan est un adversaire, ils en parlent comme étant l'adversaire de Dieu. Sauf qu'en réalité, Dieu n'a pas d'adversaire. Alors oui, il en a, il a des personnes qui s'opposent à lui, mais il est tout puissant. Et donc personne ne va à son niveau. Et donc on devrait plutôt dire, on pourrait dire que c'est davantage un adversaire des plans de Dieu. Il est adversaire des desseins de Dieu, de ce que Dieu veut réaliser, et il met tout en œuvre pour empêcher que ce que Dieu veut réaliser se réalise. Un autre terme que la Bible utilise pour parler de Satan, c'est le mot diable. Diabolos, c'est-à-dire le calomniateur, l'accusateur des frères. Il est celui qui calomnie et il est celui qui accuse. Alors, on peut aller à la suivante. Premièrement, il est le calomniateur dans le sens où il accuse les hommes devant Dieu. Il est celui qui accuse les hommes devant Dieu. Non seulement il culpabilise les hommes, Satan a une œuvre particulière qui est de mettre dans le cœur des hommes un fardeau de culpabilité, de les plonger dans la culpabilité. Et vous savez que la culpabilité, il y a des gens qui en meurent, qui en sont complètement étouffés. Mais pas seulement, il accuse les hommes dans leur cœur, mais il accuse aussi les hommes devant Dieu. Et donc c'est lui, finalement, qui suscite la condamnation de Dieu en mettant en évidence nos fautes, nos péchés. Et donc il accuse les hommes devant Dieu, mais tu as vu celui-là, tu as vu ses fautes, tu as vu ses péchés, un peu comme il l'a fait avec Job. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job ? Et il lui répond, oui, mais il fait ça seulement parce que tout va bien dans sa vie, il te sert, mais est-ce qu'il va te servir lorsqu'il n'aura plus rien ? Donc vous voyez qu'en fait, il se présente devant Dieu et il calomnie les hommes, il parle mal des hommes devant Dieu. Alors, c'est un texte d'Apocalypse 12, verset 10, qui nous dit, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Est-ce qu'on peut imaginer ça, son action, l'action de Satan, qui est d'accuser les hommes devant Dieu jour et nuit, de rappeler jour et nuit les fautes des hommes, les égarements des hommes devant Dieu? C'est pas pour rien qu'on dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et vous connaissez bien sûr le texte de Zacharie où on voit que Satan, son job, c'est de montrer à quel point nos vêtements sont sales devant Dieu et de nous empêcher justement de pouvoir entrer pleinement en communion avec Dieu. Alors, une autre chose très intéressante, c'est que Satan est aussi le calomniateur. parce qu'il calomnie Dieu devant les hommes. En fait, on oublie souvent que c'est dans les deux sens, et j'avais oublié, mais c'est vrai que c'est très bien montré. C'est que non seulement Satan se présente devant Dieu et il parle en mal des hommes, mais une œuvre, et qui est la première œuvre de Satan en fait, c'est qu'il présente Dieu faussement aux hommes. C'est-à-dire qu'il montre aux hommes une image faussée de qui est Dieu. Et en fait, ça, c'est la source du péché originel. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, vous voyez qu'il est dit, donc la femme répondit au serpent, donc à Satan, nous ne mangeons du fruit... La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il vient parler à Ève et il lui donne une fausse image de Dieu. Il calomnie Dieu face à Ève et il lui donne l'impression en fait que Dieu en fait veut le mal. Dieu est malveillant envers Adam et Ève, qui ne veut pas qu'ils soient comme lui, et donc il leur a donné une instruction qui est fausse. Vous voyez ? Donc en fait, il donne aux hommes une fausse image de Dieu. Et si vous regardez aujourd'hui dans notre planète, si vous demandez à des gens comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que tu penses de Dieu ? Comment tu vois Dieu ? Quand on parle de Dieu, comment tu le vois ? Ben, vous allez entendre ce genre de conception. Dieu ne veut pas le bonheur des hommes, Dieu veut empêcher les hommes d'être heureux, il leur donne des règles et des lois pour ne pas qu'ils soient heureux. Quand on est avec Dieu, on ne peut rien faire, il interdit tout. Donc en fait, c'est une image qui est conçue dans la tête des êtres humains, mais qui vient justement de Satan, qui, plutôt que de montrer Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu comme étant bon, bienveillant, voulant le bien de ses enfants, il présente Dieu de façon erronée aux humains. Alors, d'autres termes qu'on a dans la Bible qui parlent de Satan, c'est le terme du dragon ou le terme de serpent. Alors, il y a certains textes dans lesquels on trouve le mot dragon. Alors, encore une fois, vous voyez que ça, dans les films, on a hein, en abondance hein, ce genre d'image. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. C'est tous ces films où on voit l'affrontement entre le bien et le mal, ce n'est pas des inventions. C'est quelque part, l'homme a l'intuition. Les humains ont l'intuition. Même quand on n'est pas croyant, on a l'intuition qu'il se passe dans notre monde un affrontement entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'on a autant de films de science-fiction, des films d'horreur, tout ce qu'on veut, qui parlent justement de cette opposition entre le bien et le mal. Et notamment, cette image du dragon, c'est une image que vous avez peut-être déjà vue, et qu'on trouve dans la Bible, dans plusieurs passages. Alors en fait, le dragon, c'est une personnification de Satan, mais dans certaines versions, on ne trouve pas le mot dragon, on voit plutôt le monstre marin, ou alors le Léviathan. Mais en fait, c'est la même chose, ça dépend un petit peu de comment on le lit. Mais en fait, le dragon aussi est associé directement à l'image du serpent. Donc là, on vient de le lire dans Genèse chapitre 3. Le serpent, c'est une personnification de Satan. Et donc, en fait, quand on parle du serpent, le serpent, ça renvoie vraiment à l'idée de la malhonnêteté, de la fausseté du diable. Il est malhonnête. Il est rusé, il est faux, il ment, il ne dit pas la vérité, il déforme les choses, il égare les gens. Il est rusé, ça c'est vraiment un mot très important, il est rusé, c'est-à-dire qu'il est extrêmement intelligent, astucieux pour le mal, pour tromper, pour égarer, pour faire du mal. Il est malhonnête. Donc ça, c'est un peu ce qu'il fait avec Ève. Hein. C'est genre, je viens pour te faire du bien, Ève, je viens pour vous libérer. Mais en fait, il la met encore plus dedans. Il est malhonnête, il est manipulateur. Et le travail de Satan, c'est de manipuler les hommes. Typiquement, le genre de truc que Satan va faire, c'est te pousser quelque part en te disant, mais t'inquiète pas, c'est vrai, ça va bien se passer, t'inquiète pas, tu as l'impression que c'est pas bien, mais c'est pas grave, fais-le quand même, tu vas bien, ça va bien se passer. Et puis après, quand les conséquences viennent, il a disparu et vous vous débrouillez tout seul. Il est le malhonnête, il est le rusé, c'est pour ça que la Bible l'appelle le malin. Donc Oui, on peut aller à la suivante. Et donc, il y a plusieurs passages qui montrent justement cette notion du dragon et du serpent. Apocalypse 20, verset 3, « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. » Apocalypse 20, verset 2, il est dit « Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Hein, donc, Madame Ingrid et Madame Myriam vous expliqueront que quand on met une virgule comme ça entre deux mots, ça veut dire que ça s'équivaut. Donc, il saisit le dragon, le serpent ancien. Donc, ce dragon, c'est le serpent ancien. Donc, pourquoi le serpent ancien ? Ben, c'est le serpent de Genèse 3, le serpent du tout début de la Bible qui trompe les hommes. Et on a encore donc Ésaïe 27, verset 1, où on nous parle encore du Léviathan. Mais vous voyez encore le Léviathan, virgule, le serpent fouillard, le Léviathan, le serpent tortueux. Donc c'est vraiment important de bien comprendre cette notion de l'aspect tortueux et l'aspect malhonnête de Satan. On peut passer. Un autre terme qu'on trouve dans la Bible pour parler de Satan, c'est le terme de Belzébul. Alors, on trouve par exemple ce texte dans Matthieu 12, 24, où il est écrit « Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Alors, en fait, ce mot, c'est toute une histoire, l'étymologie de ce mot-là. Mais, enfin, je ne vais pas commencer à vous prendre la tête avec ça, vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Mais simplement dire qu'il y a plusieurs étymologies qui sont possibles. Une première, c'est que ce mot pourrait signifier « Dieu des ordures » ou « Dieu du fumier ». Et ce serait un mot, une expression qui aurait été utilisée par les Juifs pour qualifier une divinité païenne avec mépris, le Dieu du fumier. Donc vraiment, voilà. On peut aller à la suivante. Alors, une autre expression, c'est que ce mot pourrait venir de « Baal-Sébou », qui signifie « le maître de la maison » ou « le maître de la demeure ». Et en fait, cette deuxième explication, elle va directement en lien avec le passage qu'on vient de lire, parce qu'en fait, dans Matthieu 12, 24, Belzébul revient ou équivaut à le prince des démons, le chef des démons, le chef des possédés. C'est ce qu'on a vu la dernière fois quand on voyait que les démons sont des serviteurs de Satan. Et donc Satan est le prince des démons, il est le prince des ténèbres, il est le prince, le chef des démons. Et ce serait un sens particulier du mot Belzébul, le chef des démons, le chef de la maison des ténèbres. Et une autre étymologie possible, c'est que ce mot Belzébul pourrait venir du nom d'une divinité des Écronites. On trouve ça dans la Bible, Baal-Séboub, et ce nom serait en fait une déformation du nom Baal-Séboul et signifie Dieu des mouches. Et en fait, l'idée c'est qu'ils auraient changé la dernière lettre du mot pour donner une signification ridiculisante à ce mot-là. C'est une façon vraiment pour les Juifs de parler de cette divinité païenne avec mépris. Avec mépris, le dieu des mouches, donc le dieu de rien. Mais, elle a tout compris, Evelyne. Mais oui, mais c'est ça, t'as terminé ma phrase. C'est le dieu de rien, c'est le dieu sans valeur, le dieu qui ne vaut rien. Et donc c'est de là que ça viendrait. Mais bon, ne vous cassez pas la tête avec tout ça. Retenez simplement que Matthieu 12, 24 nous parle de Belzébul simplement comme étant le prince des démons, comme étant le chef des démons. Alors un autre terme qu'on trouve dans la Bible pour parler de Satan, c'est le terme de Bélial. Alors dans 2 Corinthiens 6, 15, il est écrit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Et donc le mot Bélial signifie « ce qui ne vaut rien » ou alors « ce qui est méchant, ce qui est mauvais, ce qui est indigne ». Et dans d'autres textes de la Bible, le mot Bélial est utilisé pour parler des gens pervers. Donc le Bélial, c'est vraiment ce qui est mauvais, ce qui est indigne, ce qui est pervers, ce qui est vraiment mauvais. Et donc en fait, on utiliserait ce mot Bélial comme un nom de Satan pour parler du fait qu'il est la créature la plus vile, la plus mauvaise, la plus méchante, la plus indigne qui soit. Donc c'est une, on voit dans ce texte de Corinthiens 6,15, en fait c'est vraiment le contraste parfait. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Donc Christ et Bélial, c'est vraiment pour montrer le contraste. Il est l'inverse, le total inverse de Christ. Il est ce qu'il y a de plus vil, de plus méprisant, de plus mauvais, de plus mal intentionné. Un autre terme que vous connaissez bien, cette fois-ci, pour parler de Satan, c'est le terme Lucifer. Alors, il y a une série sur Netflix, et le gars s'appelle Lucifer. Alors, faites pas comme si vous ne le saviez pas, hein. Vous faites toujours les innocents ici, comme si vous ne connaissez rien du tout. Il y a bien une série qui s'appelle comme ça, vous le savez. Ah oui, mais vous ne la regardez pas. Oui, tu veux dire...
Parce que est-ce que cette série, nous contrôlons la salle de Dieu, parce qu'elle est venue, alors, c'est vraiment sur cette série, dans cette série, on a vu que c'est Dieu qui a envoyé sa porte pour nous montrer, et que sa porte
est la vie. Donc en fait, vous voyez d'une part que le film ne vient pas de nulle part, la série ne vient pas de nulle part. Alors moi, je ne l'ai pas regardé, mais c'est vraiment un gars qui est... c'est le diable, quoi. Je veux dire, il est vraiment dégoûtant, il est vraiment... et effectivement, c'est une série qui vise aussi à renverser les choses. Donc c'est un peu ce que tu dis, il renverse vraiment l'ordre des choses. Maintenant, c'est Dieu qui a envoyé Lucifer. Donc vous voyez un peu la perversion de ce genre de série. Alors, d'une part, c'est pervers, mais d'autre part, retenez bien que ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part, ça vient de ce que la Bible dit de cela. Alors, voilà, on pourrait en dire beaucoup, mais en tout cas, ça nous montre bien que, quel que soit ce qu'on en dit, même si, hein, comme je dis, si jamais il y avait une caméra de télé ici, de la RTBF, en train de filmer, on dirait, mais il est fou ce gars, on est en 2023, il est en train de nous parler de Lucifer. Et pourtant, regardez ce genre de série. Quelque part, l'homme sait bien qu'il y a quelque chose. L'homme a l'intuition des ténèbres, mais en même temps, ce genre de série très insidieuse. Vous pourriez avoir, justement, voilà, votre ado. Tu regardes quoi ? Je regarde Lucifer. Ah, c'est bien, ça doit être marrant. Oui. Et c'est intéressant, justement, comme dit Arlette, ils disent que c'est Dieu qui a envoyé Satan et que Satan deviendra Dieu, tout ça. Donc c'est le renversement total de la pensée de Dieu. C'est le summum du blasphème et de la perversion dans une série. Et donc, c'est le soutien même de l'œuvre de Satan, c'est de renverser le plan de Dieu, c'est de renverser la volonté de Dieu. Alors, Lucifer, c'est donc un texte, un titre qui renvoie, qui signifie l'étoile du matin. Et donc, en fait, l'étoile du matin, c'est le surnom, ou ce serait, c'est contesté, mais ce serait le surnom de la planète Vénus. La planète Vénus qui est l'étoile qui est la dernière à disparaître avant l'aurore, qu'on continue à voir. Alors, ça a été appelé l'étoile du matin parce qu'on pensait que c'était une étoile. Donc, c'est un astre, mais on a pensé que c'était une étoile, ce qui fait qu'on appelle ça l'étoile du matin, l'étoile qui reste et qui est encore visible avant que l'aurore vienne. Alors, ce terme-là, en fait, ce serait vraiment, pour certains, ce serait vraiment le nom de Satan, et ça renverrait justement à Satan comme un être, en fait, lumineux. Mais c'est un ange lumineux, c'est un ange glorieux. C'est l'ange, on pourrait dire que c'est la plus belle créature de Dieu, mais qui s'est révoltée. Donc, un ange lumineux, plein de gloire, plein de beauté, plein de resplendissement, mais qui s'est rebellé contre Dieu par orgueil. Et donc c'est un autre nom de Dieu qui renverrait justement à cet éclat, à cet éclat extraordinaire de Satan, mais qui l'aurait amené à se détourner de Dieu. On peut continuer. Et vous voyez aussi que 2 Corinthiens 11, verset 4, dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors, il est il est en réalité un ange de lumière. C'est ce qu'il a, comme ça qu'il a été créé. Il est déchu maintenant, mais il a été créé ange de lumière. Et donc, il continue à se faire passer pour un ange, pour un ange de lumière. Il continue à se montrer sous ses plus beaux aspects pour qu'on puisse justement le suivre. C'est pour ça que, comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, en réalité, nous tous, on dit, mais Satan, moi je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il raconte, Satan, il ne l'a jamais vu. Oui, mais il se fait passer pour un ange de lumière. Il ne se montre pas dans sa méchanceté, il ne se montre pas dans son caractère mauvais. Il se fait passer pour un ange de lumière pour pouvoir tromper. Il se déguise en ange de lumière pour pouvoir égarer les hommes. Voilà, on peut aller à la suivante. Alors, un autre terme qui est utilisé, c'est aussi un terme qui est le malin, mais ça je ne vais pas en dire beaucoup puisque vous avez compris l'idée. Il est le malin, il est le méchant, le malicieux, le cruel, le tyrannique aussi. Hein, ce n'est pas pour rien qu'on voit dans la Bible des gens qui sont possédés, dont on dit qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Ils tyrannisent les hommes, ils tyrannisent les hommes. Ils cherchent toutes les occasions pour tromper les hommes et pour leur faire du mal. Le texte dit, c'est justement le texte d'Éphésiens 6,16 utilise l'expression « Vous pourrez ainsi éteindre tous les traits enflammés du malin. » Le malin, celui qui est méchant, celui qui est rusé. Et quelqu'un disait très justement, non seulement il est très malin pour égarer les hommes, mais en plus il a une très longue expérience. Et ça fait depuis le début du monde qu'il trompe les hommes, qu'il les amène dans le péché, qu'il les fait s'égarer de Dieu, donc il sait comment on fait. Hein, donc ne pensons jamais que c'est un petit rigolo. Il sait comment faire pour nous égarer, il sait comment faire pour nous faire du mal et pour nous empêcher de marcher avec Dieu. Alors un autre terme aussi, et je vais essayer d'aller vers la fin avec celui-là, avec ce terme-là, c'est on l'appelle aussi le Dieu de ce monde ou aussi le Dieu de ce siècle. Ça c'est fort intéressant. On l'appelle le Dieu de ce siècle. Et il est écrit donc dans 2 Corinthiens 4, verset 4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. » De la gloire de Christ, pardon, qui est l'image de Dieu. On dit donc que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile. Et on pourrait même faire beaucoup plus simple, hein. Il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de Dieu dans la nature. Ça reste pour moi une énigme insoluble. C'est comment des gens, et tant de Belges qui partent en vacances tous les ans, dans des... Jean-Pierre, dans des... Même parce que toi, je sais que tu es très sensible à ça, à la création. Comment tous ces Belges font pour voir la création et pour ne pas se dire... Il y a quelque chose qui... Donc, il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne le voient pas. Mais tu vois pas le ciel, tu vois pas les étoiles, tu vois pas la... tu vois pas comme c'est extraordinaire. Et tout ça, ce serait le fruit du hasard, alors. Et donc, il aveugle les hommes, mais il aveugle aussi, et c'est le sens du texte, hein, faut être honnête, c'est le sens du texte, il aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de Christ. La gloire de l'œuvre de Christ, la gloire de la personne de Christ, pour que les hommes méprisent Jésus et son œuvre en faveur des hommes. Alors vraiment, c'est un terme hyper intéressant parce qu'en fait ce terme dit « il est le Dieu de ce siècle ». En d'autres termes, il est celui qui règne dans le monde actuel. Il est celui qui a l'autorité dans le monde actuel, il est celui qui conduit le monde actuel. Et quand on parle de ce siècle, c'est vraiment le temps actuel, le temps dans lequel on est, la mode dans lequel on est, le monde dans lequel on est, il est le Dieu de ce siècle. C'est lui qui dirige ce siècle, c'est lui qui dirige, qui a autorité. Alors ça ne veut pas dire effectivement, le texte ne dit pas que en fait il dirige les hommes et que c'est lui qui est derrière toutes les actions des hommes, ce n'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, le texte, qu'il y a un système en fait, satanique qui tient les hommes dans l'aveuglement par rapport à Dieu et qui conduit les hommes à vivre d'une certaine façon, ce qui fait que le texte dit, 1 Jean 5,19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous, comme croyants, on doit savoir ça. On doit savoir que notre monde n'est pas dirigé par Dieu. Dieu règne sur ce monde, hein, c'est pas ça. Dieu règne sur le monde. Mais ce que nous vivons, ce que la vie des hommes est aujourd'hui, les mœurs des hommes actuels, les façons de vivre des hommes, tout ça nous montre que ce n'est pas inspiré de Dieu. C'est Satan qui conduit les hommes dans leurs mœurs, dans leur égarement vis-à-vis de Dieu. Ok, donc ça c'est très intéressant, c'est le terme, il est le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Et c'est pour ça qu'en fait dans la conception biblique, quand on dit qu'on n'est pas du monde, c'est ça aussi, c'est que nous ne sommes pas sous l'autorité de celui qui est le Dieu de ce monde. Nous sommes censés laisser notre vie être influencée par Dieu et pas par le Dieu de ce monde qui nous pousse dans un certain sens et qui nous inculque certaines valeurs qui ne sont pas de Dieu. Ok ? Alors on va à la suivante. Alors là je vais vraiment insister, et je terminerai par là, c'est que en fait Satan, le terme montre que Satan exerce un grand pouvoir sur le monde. C'est pas pour rien qu'il disait à Jésus, mais tous les royaumes de la terre je peux te les donner. Ça, c'est pas pour rien. Alors, il n'exerce pas un pouvoir en toute chose, Dieu reste maître, mais dans ce siècle, dans ce monde, dans les mœurs de ce monde, Satan règne. Et il règne notamment au travers d'un système dans lequel il influence les hommes dans leur rébellion à Dieu, dans leur incrédulité, dans leur mode de vie pécheur, dans l'idolâtrie. Il est en fait l'instigateur du système ou des systèmes de ce monde qui sont des systèmes dans lesquels il conduit les hommes à se rebeller contre Dieu et à vivre loin de Dieu, à s'éloigner de Dieu. Par exemple, il est l'instigateur des systèmes de rébellion et d'égarement. Il est l'instigateur des systèmes de l'idolâtrie. Nous vivons dans un monde d'idolâtrie, par exemple. Dans un monde, et on en parle beaucoup dans la Bible, mais un monde dans lequel on préfère adorer, comme on dit, la créature que le créateur, un monde dans lequel on est idolâtre. Eh bien, Satan, un de ses jobs, c'est de pousser les hommes dans l'idolâtrie. Quel est le meilleur exemple de l'idolâtrie dans laquelle Satan pousse les hommes? L'argent. L'argent. La Bible dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. Eh bien, un bel exemple du monde dans lequel nous vivons, c'est que Satan pousse les hommes dans la cupidité, dans l'amour de l'argent. Il instaure chez les hommes cet amour de l'argent, cette recherche effrénée de l'argent, cette survalorisation de l'argent qui amène tout ce qu'on connaît. C'est vrai qu'il y a des guerres de religion, hein, on en a connu, mais il y a aussi un grand nombre de guerres qui sont des guerres d'argent, des guerres de pouvoir. Et donc il conduit les hommes, par exemple, dans l'idolâtrie, comme l'idolâtrie de l'argent. Il est aussi celui qui conduit les hommes dans un système de débauche. Donc notamment, c'est un champ particulier dans lequel Satan œuvre, c'est le champ de la sexualité et des mœurs débridées dans lesquelles il conduit les hommes du temps actuel. Alors si on dit qu'on ne le sait pas, c'est qu'on vit dans une grotte. Si vous dites « Ah oui, non, moi je ne vois pas la débauche dans ce monde-ci, vous vivez dans une grotte. » Et donc, voilà, les parents disent « Je ne sais même plus regarder un film avec mes enfants sans me retrouver projeté devant ça. » Et ça, c'est encore le plus soft. Mais vous savez tout ce qui se passe dans les sociétés secrètes, dans les mondes secrets. Ce qui est marrant, c'est que les humains, on aime bien se bassiner d'illusions comme ça. Alors qu'on sait bien, qu'il y a, par exemple, comment on appelle ça, le dark net. On n'a pas idée de tout ce qui se trouve là-bas. On n'a pas idée de tout ce qui se trouve. Donc nous sommes dans. Ne croyons pas que notre monde se limite à nos belles apparences quand on va chercher le pain le dimanche matin. Derrière ça, il y a un système de débauche dans lequel Satan conduit les gens. On peut continuer à la suivante. Satan aussi conduit les hommes dans des systèmes d'égarement spirituel, notamment dans les sectes, les fausses religions, mais aussi les doctrines chrétiennes altérées. Satan a un programme particulier pour altérer la doctrine chrétienne et pour amener les chrétiens eux aussi à se fourvoyer. C'est aussi une œuvre de Satan. Je ne dis pas que les chrétiens ne sont pas responsables, mais je dis simplement que c'est aussi son œuvre et c'est aussi quelque chose qu'il fait. Si vous prenez un simple exemple, et je le dis avec beaucoup de respect parce que moi-même j'ai beaucoup d'appréciation pour cela, mais si vous prenez l'exemple de la règle catholique du célibat, qui est une altération de la compréhension biblique des choses, vous voyez où est-ce que ça nous a mené. C'est-à-dire, on enseigne quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui est le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit que les humains sont faits pour la sexualité, et on invente que certains ne peuvent pas avoir de sexualité. Eh bien, voilà où on en est. Et c'est aussi une œuvre de Satan de pousser les chrétiens à mal comprendre la parole de Dieu, à mal enseigner la parole de Dieu, et du coup, maintenant, quand vous dites que vous êtes chrétien, les gens, il y a certains qui se moquent. Enfin, c'est vous qui allez nous apprendre c'est quoi la justice, l'amour, l'intégrité. Et je parle de mon frère catholique, hein, comme je dis, moi j'aime beaucoup les catholiques, je lis beaucoup de documents catholiques, mais il faut reconnaître qu'au travers de ça, l'image, malheureusement, du christianisme a été salie. Mais, comme je le dis, c'est pas seulement des hommes qui voilà, c'est aussi une œuvre de Satan de pousser les hommes dans des sectes, dans des fausses religions, et d'altérer la doctrine chrétienne. Donc on doit faire très attention à toutes les altérations de la doctrine chrétienne. Mais Satan aussi conduit les hommes dans un système d'incrédulité. Ne pas croire en Dieu. Aujourd'hui, quand vous parlez aux gens dans la rue de Dieu, mais ils sont tout de suite, même si vous êtes gentil, hein, même si vous donnez un traité, toi Evelyne, tu connais ça, hein, mais parfois vous donnez un traité à quelqu'un, bonjour madame, un petit traité, oh non, ne me parlez pas de ça, mais non, c'était juste, tu pouvais le jeter après, c'était juste. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Les hommes ne veulent pas entendre parler de ça. Satan conduit les hommes dans un système d'incrédulité. Satan aussi conduit les hommes dans un système d'immoralité. Le mal devient bien, le péché devient banalisé, le meurtre devient banalisé. Vous voyez à quel genre de choses je fais référence. Satan amène les hommes à l'immoralité. Il renverse des principes fondateurs du monde. Un principe fondateur du monde, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Et bien actuellement, ces pensées-là sont travesties dans la tête des gens. Donc c'est aussi, il renverse le bien et le mal. Il inverse les valeurs. Il amène la confusion dans la tête des gens. Un autre système de satanique, c'est le système de la rébellion. Et je sais bien que ça, c'est quelque chose que parfois on ne sait pas, mais il y a un caractère principal de Satan et de son royaume, c'est la rébellion. Satan conduit les hommes à se rebeller. Alors, la première rébellion à laquelle Satan conduit les hommes, c'est à se rebeller contre Dieu, à refuser l'autorité de Dieu, à refuser de reconnaître la gloire de Dieu. Mais aussi, Satan conduit les hommes à se rebeller à toutes les autorités que Dieu a établies. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans la fin des temps, les hommes seront rebelles à leurs parents. C'est aussi un système de rébellion. Rebelles aux autorités, rebelles à la police, rebelles aux enseignants. Aujourd'hui, les enseignants, parfois, on leur parle comme à des chiens. C'est un système de rébellion. En fait, les autorités qui sont dans le monde sont comme des mini-représentations de l'autorité de Dieu. Et Satan pousse les hommes à se rebeller contre Dieu et contre les autorités qu'il a établies. On peut aller à la suivante pour voir. Et alors je termine en disant, Satan est aussi présenté comme étant le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire qu'il règne sur le siècle de ce monde, comme on l'a vu, mais qu'il règne dans l'air, il règne dans le monde spirituel. Hein, on a parlé dans les lieux célestes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations dans les lieux célestes. Eh bien, il est le prince de la puissance des lieux célestes dans lesquels se trouvent les principautés et les dominations. On peut aller à la suivante pour que je vois ce que c'est. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous voulons vraiment continuer à penser ces choses. L'idée n'est pas de nous faire peur. L'idée n'est pas d'exagérer. L'idée, c'est que nous voyons le monde tel qu'il est et tel que Dieu le présente. Et même si nous avons des collègues qui sont super gentils, on n'est pas en train de tout diaboliser. On est en train de montrer que derrière le paravent de ce monde, il y a effectivement une action du diable et que nous, comme croyants, nous devons la discerner pour pouvoir justement vivre avec Dieu. Amen.